Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission « La Chine-Amérique, un couple contre nature ». Vaste sujet pour un titre de livre ambitieux, titre paru chez Erol, et deuxième livre du Cercle Turgot, qui analyse le rapport politico-économique entre la Chine et l'Amérique. Mais c'est bien plus compliqué que cela, nous allons le voir dans un instant avec nos invités. Ce livre a été dirigé par Jean-Louis Chambon, que nous accueillons dans ce studio. Bienvenue.
Bonjour.
Également par Jean-Henri David, qui est président du Cercle Turgot. Bienvenue dans cette émission. Et également Pierre Sabatier, que nous recevons pour un chapitre sur « La Chine est-elle adaptée au nouvel ordre mondial ?» Bienvenue à vous, vous êtes président du cabinet Primeview.
Bonjour.
Bienvenue à tous les trois. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, Monsieur David. Vous êtes président du Cercle Turgot, comme je l'indiquais dans mon introduction. Pourquoi ce titre, La Chine-Amérique ? Pourriez-vous nous donner un angle d'approche sur l'idée et peut-être l'ambition d'un tel titre ?
Bien, vous savez, je crois que nous sommes en plein dans l'actualité. C'est-à-dire qu'au sortir de la crise, ou en tout cas au milieu de la crise que nous avons traversée depuis 2 ans, il est apparu que les États-Unis, d'une part, du fait de leur position dominante depuis une cinquantaine d'années dans le monde, la Chine, d'autre part, du fait de la formidable expansion qu'elle a connue ces dernières années, étaient en train de devenir les deux puissances, j'allais dire, les plus importantes au monde. Et dans le même temps, elles ont des liens assez forts, monétaires, économiques, commerciaux, qui font qu'en définitive, leur interaction va agir, va façonner le 21e siècle. Et donc, nous avons pensé qu'il était intéressant de donner la parole à un certain nombre d'économistes, un certain nombre de personnalités, pour avoir leurs sentiments sur ce que ce couple pouvait donner à l'avenir. Est-ce que c'était une bonne chose pour l'économie mondiale ? Comment ça peut fonctionner ? Est-ce qu'il y a des risques ? Bref, ce sont toutes ces questions qu'on passe en revue dans ce livre avec différents auteurs.
Jean-Louis Chambon, vous écrivez sur l'énigme de l'économie socialiste de marché. Est-ce que pour vous, la relation entre la Chine et l'Amérique est une véritable énigme ?
Alors, la relation est une énigme, mais on sait qu'ils sont complètement complémentaires, puisque d'un côté, vous avez quelqu'un qui est endetté, et d'autre côté, vous avez un banquier, le banquier étant donc le Chinois. Par contre, l'énigme, elle porte sur cette économie socialiste de marché, puisqu'en fait, c'est en soi une contradiction que de mélanger à la fois, d'un côté, la liberté des marchés et de l'autre, un régime qui n'est absolument pas, lui, sous le sceau de la liberté. Donc, c'est ce mélange, on va dire, contre nature qui interpelle donc à la fois les économistes sur ce plan de la liberté des marchés et de la liberté tout court et qui interpelle par ailleurs les juristes puisque, en fait, contrairement à ce que l'on croit savoir, le droit chinois est extrêmement riche et est très proche d'une évolution démocratique, même si on met à part donc l'évolution récente, la ride, c'est cette ride sur cette courte ride sur l'histoire qui a été donc la période maoïste. Et donc pour les juristes et aussi bien entendu pour les démocrates, mais ça c'est un autre sujet sur lequel j'imagine que l'on reviendra. Donc une triple énigme pour les économistes, pour les juristes et pour les démocrates.
Est-ce que la Chine dépasse l'Amérique ou le contraire ? Peut-être, je me tourne vers vous, Monsieur David. Quelle est la puissance finalement la plus porteuse aujourd'hui dans l'ordre international ?
Écoutez, quand vous regardez les années récentes, la croissance chinoise a été de l'ordre de 7-8% l'an. Si vous regardez l'année dernière, alors que toutes les économies occidentales ont été en récession, la Chine a continué à croître 6-7-8%. Donc, nous sommes face à un phénomène qui a traversé la crise, qui a résisté, avec une vigueur que l'on n'avait probablement pas imaginée il y a 2 ou 3 ans. Si l'on regarde les fondements même de l'économie chinoise, vous avez une population nombreuse. Elle est devenue, comme on dit, l'atelier du monde, l'atelier industriel du monde, grâce à une population, grâce à une dynamique, grâce à des investissements, grâce au fait que les pays occidentaux, en général, ont investi en Chine. Bref, la Chine va devenir, effectivement, elle est déjà plus ou moins la 2e puissance économique mondiale Et certains considèrent que quand on regarde les tendances, quand on regarde les évolutions, elle pourrait même devenir la première économie mondiale d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc nous avons un phénomène très important sur le plan macroéconomique, sur le plan géopolitique, qui est un basculement en quelque sorte vers l'Asie d'une partie de la domination mondiale. Les États-Unis avaient ce rôle, ont eu ce rôle, ont joué ce rôle pendant très longtemps. À partir de maintenant, ils ne sont plus seuls sur la planète à jouer avec ce niveau de puissance.
Oui, Jean-Louis Chambon.
Oui, alors ceci renforce ce que vient de dire le président, encore plus ce côté énigmatique de la Chine, puisque jamais sur une longue période, on a connu un État qui pouvait avoir un taux de croissance aussi élevé et pendant aussi longtemps. Donc c'est encore une autre énigme de savoir, autrement dit, pour dire vulgairement les choses, pendant combien de temps ça peut durer.
Pierre Sabatier, vous avez écrit sur l'adaptation de la Chine au nouvel ordre mondial. Lorsqu'on va à Shanghai aujourd'hui, il y a une grande énergie, une grande dynamique. Lorsqu'on va à New York, est-ce qu'on ressent la même chose? Est-ce qu'on peut finalement comparer les deux en termes de dynamique?
Alors c'est difficile à dire, mais j'aimerais revenir sur un point qui me paraît important.
Allez-y.
C'est la manière en fait dont la Chine a traversé la crise. Alors, le problème d'un pays donc autoritaire, je dirais, donc qui n'est pas une démocratie, c'est que bien entendu, on peut avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne lorsqu'on tend en fait vers une certaine réussite économique. Et la Chine des 10 dernières années en est le meilleur exemple. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire économique récente et même plus lointaine, on a vu un pays afficher des taux de croissance aussi importants pendant aussi longtemps. Maintenant, la question à se poser, c'est quel levier la Chine a réussi à activer pour maintenir des taux de croissance aussi importants, en dépit du fait que le monde ait connu une récession qui n'avait plus existé depuis les années 30. Alors, c'est là où, par contre, je diverge un petit peu sur les points évoqués jusqu'à maintenant. Non, je ne crois pas qu'à horizon 2030, la Chine soit la première économie mondiale, parce que les raisons qui nous font dire que le taux de croissance affiché en 2009 par la Chine, qui était proche de 8%, donc comme annoncé d'ailleurs un an plus tôt par les gouvernants chinois, donc a essentiellement reposé sur de l'investissement et de la subvention de son économie. Donc, je reviendrai une seconde sur le modèle économique chinois. Il repose essentiellement sur de l'investissement, dans des proportions extrêmement impressionnantes. C'est-à-dire qu'en 2009, on a atteint 45% du PIB.
Depuis 2008, parce qu'avant, c'était absolument l'inverse.
Non, sur le taux d'investissement, en fait, il est en sans cesse augmentation depuis, finalement, l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui est datée de 2001. Donc, à partir de là, le modèle économique chinois est reposé sur deux piliers fondamentaux, qui sont les exportations. Donc, je rappelle que les exportations sont extrêmement corrélées, bien entendu, à la demande finale qui réside encore une fois et encore aujourd'hui dans les pays occidentaux, et sur l'investissement, investissement direct en outils de production, donc en usines. Il faut savoir que le taux d'investissement en 2008 était de 42% du PIB en Chine, il est passé à 45% du PIB en 2009. Pour mémoire, rappelez-vous les années 80 avec le modèle japonais, qui est reposé également sur une énorme bulle dans l'économie réelle et dans l'immobilier. À l'époque déjà, en dépit du fait qu'il y ait eu énormément de spéculation et d'investissement, on était très très loin des niveaux qu'on a atteints en Chine aujourd'hui. Conclusion, on va dire, de transition, c'est la Chine aujourd'hui est sortie de la crise et a réussi à atteindre un taux de croissance de 8%, essentiellement par la subvention des gouvernants. Rappelons que le plan de relance chinois a atteint 13,5% du PIB en 2009. À titre de comparaison, les États-Unis, qui subissent leur pire récession depuis les années 30, ont engagé un plan de relance qui correspond à 5,5% de son économie. Donc là, je tiens simplement à faire s'interroger les auditeurs, dans le sens, pourquoi, si la Chine a un modèle aussi résilient et aussi solide, donc en dépit d'une forte récession, injecte-t-elle autant d'argent dans son économie? Et je dirais deux fois et demi plus que les États-Unis, qui subissent une crise très très importante. Donc je dis, prenons garde.
Méfiance.
Méfiance.
Gardons
absolument.
Méfiance.
Méfiance et aussi sur les chiffres, c'est-à-dire sur la véracité des chiffres. C'est un petit peu ce que sous-jacent veut dire Pierre Sabatier. Hein. C'est que la fiabilité des chiffres, on s'interroge.
Absolument. Alors pour donner un exemple donc, à la véracité des chiffres, et c'est toujours compliqué pour des économistes de construire des scénarios quand on n'est pas exactement sûr de la fiabilité des données qu'on manipule. Donc premièrement, sachons que la profondeur des données disponibles sur la Chine n'a rien à voir avec les profondeurs de données disponibles sur les États-Unis ou l'Europe.
Surtout qu'on a un exemple récent avec la Grèce.
Absolument. Déjà dans un système, on va dire, qui date, on fait toujours face à des problèmes qui nous apparaissent solides. Voilà. Et donc, je dirais que c'est un bon exemple de ce qui pourrait nous arriver sur le phénomène chinois. Simplement, je dirais qu'en tant qu'économiste, on a quelques petites ruses pour avoir une idée des chiffres un petit peu plus véridiques, je dirais, sur l'évolution de l'économie, il faut savoir que pour avoir une bonne idée de la croissance chinoise, on s'intéresse beaucoup à la production d'électricité en Chine, dont les données sont un petit peu plus fiables. Et il faut savoir qu'au dernier trimestre 2008 et au premier trimestre 2009, la production d'électricité a reculé en Chine. Donc, a priori, l'impact de la récession mondiale a été beaucoup plus important que ce que les Chinois ont laissé transparaître au regard des chiffres qu'ils ont communiqués. Voilà. Et ce qui expliquerait en partie le gigantisme, je dirais, du plan de relance qui a été mis en place par les autorités.
Mais les chiffres que vous avancez sont-ils donc véridiques? Comment avez-vous réussi à les trouver?
C'est ce qu'ils publient, en quelque sorte.
Absolument, les chiffres du PIB...
45% du PIB.
Le taux d'investissement, etc., sont les chiffres qui sont disponibles via la Banque de Chine. Pour construire un scénario, il faut bien se baser sur des données. Mais tout en sachant qu'il faut corriger ce biais-là, et lorsqu'on construit ces scénarios, attention à la sino-béatitude, je dirais, qui nous guette tous, et c'est normal parce qu'on a devant nous un modèle qui fonctionne de manière admirable, alors que nos économies ont quand même beaucoup souffert ces dernières années. Et je dirais même avant la crise, les pays européens ont été relativement à la traîne. Donc effectivement, il y a des bonnes choses, mais méfions-nous des effets masquants et du fait qu'on ait affaire à un pays qui reste gouverné par une autorité qui n'est pas démocratique.
Oui. Monsieur David.
Ce que je voudrais juste mentionner en complément, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la Chine et j'allais dire le reste du monde, et notamment les États-Unis, sont solidaires de fait. C'est-à-dire que la Chine détient des réserves de change considérables, pour l'essentiel en dollars. Et par conséquent, d'une certaine façon, la valeur de la monnaie américaine, sa parité sur les marchés d'échange, dépend très largement de la politique de devises qui sera menée par la Banque centrale chinoise, c'est-à-dire par les autorités chinoises. Donc, les Américains ne peuvent pas se désintéresser de ce sujet.
Vous voulez dire qu'elles sont interdépendantes ?
Absolument. Il y a une fantastique interdépendance, de fait, entre ces deux grandes puissances. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà des anicroches et des effets de manche que l'on constate périodiquement entre l'un et l'autre, hein, sur le Dalai Lama ou sur l'Iran, il est objectif que le dialogue entre ces deux superpuissances se poursuive et se poursuive de façon positive. C'est-à-dire que la croissance chinoise est indispensable à une sortie de crise ordonnée aujourd'hui. Et par conséquent, mon sentiment, c'est que tout sera mis en œuvre pour faire en sorte que la dynamique qui est enclenchée en Asie continue. Les Chinois doivent encourager leur consommation, doivent effectivement faire en sorte que la croissance repose plus sur la consommation intérieure. Ils ont commencé à soutenir la consommation intérieure chez eux. Il faut que les Américains épargnent plus de façon à limiter, si je puis dire, ces importations et donc les exportations de dollars. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un mécanisme rééquilibrant à terme, le moteur de la croissance passant en Asie, reposant davantage sur la Chine et les pays d'Asie, de façon à prendre le relais d'un moteur un peu essoufflé en Occident. Et donc je pense que le fait que nous soyons tous un peu dépendants de cette situation fait qu'elle a des chances d'évoluer dans le bon sens.
Jean-Louis.
Donc, oui, je crois que c'est très important. Vous posiez en introduction la question de savoir pourquoi ce titre Chine-Amérique. Le président vous a expliqué quelle était la logique. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, le couple Chine-Amérique est normalement un couple contre nature. C'est-à-dire que tout oppose ces deux modèles. Et donc, ce qui est très intéressant, ce sont les développements que l'on trouve ensuite à l'intérieur de cet ouvrage, les 25 contributions par les experts du Cercle Turco, c'est de montrer que, en fait, ces deux puissances ont fait le même constat que l'hyperpuissance ne sert à rien, ni pour gagner les guerres, ni pour maîtriser l'ordre mondial. Et que donc, le chemin de la raison, la réelle politique, principe de réalité, conduit ces deux puissances qui encore ne sont pas du tout sur un pied d'égalité au niveau des équilibres, puisque on va dire qu'en gros l'Amérique c'est 15 000 milliards de PIB et que la Chine et le Japon c'est plutôt 5 000. Hein, donc il y a quand même encore un certain écart, mais enfin avec la vitesse de progression ils peuvent rattraper. Eh bien, tout ce qui est particulièrement intéressant dans ces développements, c'est justement de voir en quoi ce principe de réalité prend le pas sur les autres considérations par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, par rapport aux objectifs, par rapport aux principes même démocratiques qui l'emportent sur ces aspects. C'est ce que développent les gens. et avec simplement un mot, puisque vous en parliez tout à l'heure, sur un remarquable développement qui est justement sur le dilemme du banquier, puisque l'un est banquier de l'autre, et que le grand dilemme de la Chine, qui est le banquier de l'Amérique, et l'Amérique étant elle-même le grand client, en quelque sorte, de la Chine, c'est de savoir comment ils peuvent continuer à vivre ensemble, puisqu'ils ont de toute façon, comment dire, une chaîne qui les lie par les pieds l'un et l'autre.
Et qu'ils vont devoir continuer à vivre ensemble.
Voilà, absolument.
Pierre Sabatier, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Tout à fait. Alors, je reviendrai sur deux choses, sur le modèle économique chinois tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, sur une chose qu'on entend souvent, sur le fait qu'on peut avoir la fameuse théorie du découplage macroéconomique entre Occident et Orient, et d'ailleurs, et Chine, je dirais. Alors, attention, le fait que les soutiens à la consommation commencent à exister en Chine reste extrêmement, je dirais, périphérique pour l'instant, puisque la consommation des Chinois ne pèse que 38% du PIB. Excusez-moi de reciter quelques chiffres parce que c'est important. 38% du PIB, c'est extrêmement faible, alors que dans les années 2000, les dépenses des ménages chinois correspondent à peu près à 47% du PIB. C'est-à-dire que jamais les ménages ont contribué aussi faiblement à la croissance de la Chine aujourd'hui. Donc là aussi, posons-nous quant à la pérennité des taux de croissance que la Chine pourra afficher dans les années futures. Pour l'instant, très clairement, le pilier n'est pas du tout la consommation des ménages. Et il sera très difficile à mettre en place parce que je rappelle que la puissance chinoise dans le commerce mondial vient du fait qu'elle exerce un dumping à la fois fiscal, social, environnemental, etc., etc. Et je dirais plus fondamentalement, repose sur un gisement de main-d'œuvre infini qui permet de produire à plus bas prix qu'en Occident ou même que dans d'autres pays émergents. Voilà. Donc si vous... Le dilemme est là pour d'ailleurs les gouvernants chinois. Si vous donnez plus de pouvoir d'achat aux ménages chinois, les salaires augmenteront et vous aurez de l'inflation. Et qu'est-ce qui se passera ? C'est que petit à petit, l'avantage compétitif de la Chine s'érodera. Et vous savez, lorsque on travaille, je dirais, pour les autres, je reviendrai sur la crise asiatique des années 97-98 qui n'a pas été différente, sauf que là, on était moins dans des régimes politiques, je dirais, dictatoriaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où une zone perd son avantage compétitif, les unités de production s'en vont. Donc, simplement, posons-nous vraiment la question de la pérennité, encore une fois, de la transition d'un modèle exclusivement tourné vers l'investissement et vers l'extérieur vers un modèle qui serait plus tourné vers l'intérieur. Alors, il est tout à fait souhaitable que ce modèle se transfère vers la consommation des ménages. Maintenant, le chemin à emprunter pour y aller, il sera long et difficile. Et le fait qu'on soit dans un régime quand même autoritaire nous laisse penser que si on peut anticiper un scénario à la japonaise, c'est-à-dire une explosion d'une certaine bulle de l'investissement, une bulle de la spéculation en Chine, bien entendu, par contre, à terme, je dirais à long terme, on ne prédit pas pour la Chine un scénario à la japonaise 20 ans après. C'est-à-dire que structurellement, la population chinoise et l'économie chinoise continuera de croître. Maintenant, ce qu'on pense, c'est qu'on est aujourd'hui, on doit faire face aujourd'hui à une grande bulle spéculative qui vient à la fois du subventionnement par le gouvernement de son économie en Chine et en quelque sorte de la sino-béatitude dont nous faisons preuve. Et je dirais sinon, simplement, prenons garde à un choc dans un premier temps qui pourrait être compliqué à gérer également de notre côté.
Alors on a beaucoup parlé des problèmes économiques, bien entendu, c'est une large partie de notre ouvrage, mais on ne passe pas sous silence les autres aspects de la problématique de ce couple contre nature, notamment sur le plan humain, les droits de l'homme, etc. Donc ce sujet mérite des développements, un certain nombre de contributeurs le font. Et on voit, on découvre d'ailleurs certains aspects, mais on ne va pas tout livrer. Il faut que nos auditeurs aient aussi envie de découvrir ces contributions. On voit que sur certains aspects, la démocratie du modèle référent est aussi contestable. Et par exemple, je vous citerai qu'un seul point, il faut quand même savoir que les pays qui pratiquent le plus la peine de mort, c'est à la fois la Chine et l'Amérique. Alors pour des raisons et des modalités qui ne sont pas tout à fait comparables, mais entre une balle dans la tête payée par la famille et le couloir de la mort dans lequel on retrouve exclusivement des noirs et des pauvres, on se demande où se situe la démocratie et la démocrature. Voilà donc des sujets qui sont aussi évoqués à côté des problèmes économiques.
Une dernière question en relation avec la jeune génération qui part aujourd'hui, semblerait-il, plus volontiers en Chine qu'aux États-Unis, un peu émerveillée par des villes montantes comme Shanghai ou Hong Kong qui restent très actives. Vous leur dites quoi aux jeunes qui partent plus volontiers en Chine ? Attention, faites attention parce qu'il se pourrait que demain ce soit plus Shanghai ou la Chine ?
Absolument pas, je dirais continuer. Parce que simplement, la richesse naît de la diversité. Et donc, plus nous échangerons et plus nous voyagerons et plus nos concitoyens...
Mais est-ce qu'il vaut mieux partir en Chine ou aux États-Unis aujourd'hui pour les jeunes ?
Il vaut mieux partir aux deux. Je dirais, il n'y a pas de choix à faire, même si, effectivement, découvrir... Alors, le problème simplement de la Chine et de villes comme Shanghai, c'est que quand vous allez à Shanghai et vous êtes sur place, vous voyez une grande vitrine. Une grande vitrine et une très, très belle vitrine. Et vous dites, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce pays et ce modèle-là va finalement nous écraser parce qu'il est surpuissant. Effectivement, Shanghai est une très belle ville et dans laquelle on ressent une dynamique extrêmement puissante. Seulement, attention, la Chine n'est pas Shanghai. Et d'ailleurs, si vous vous éloignez très vite, d'ailleurs, dans la deuxième, voire troisième couronne de Shanghai, la situation n'est plus exactement la même. Donc, je dis là aussi, simplement, attention aux vitrines. Mais par contre, je dis aussi aux jeunes, allez...
Faites le tour du monde.
Voilà, faites le tour du monde, je dirais, et pas simplement à New York ou à Shanghai.
Mais New York est également une vitrine.
C'est une vitrine, mais je dirais, c'est une vitrine du cosmopolitisme. Ceux qui croient qu'à New York, on visite les États-Unis, je crois que font une erreur. C'est une ville du melting pot. Je ne crois pas, d'ailleurs, comme Jean-Louis le précisait jusqu'à maintenant, que les États-Unis soient l'exemple même d'une société de melting pot réussie.
Tout à fait.
Puisque les communautarismes restent relativement importants.
La grande question, ça va être de savoir comment le consommateur chinois, comment l'homme de la rue va percevoir son avenir. Car en fait, jusqu'à présent, ils étaient dans une situation, on va dire, plutôt euphorique, puisqu'en fait, même si le niveau de vie était très bas, la perception qu'ils avaient de l'accélération et la progression de ce niveau de vie tirait l'ensemble vers de l'optimisme et donc de la consommation, de l'envie, etc., d'aller de l'avant. Le grand problème des dirigeants chinois, ça va être de maintenir cet état d'esprit, parce que sinon, le système, bien entendu, ne résistera pas. Si le Chinois de la rue n'a pas l'impression d'être heureux, eh bien, le système qui déjà repose sur des bases très contradictoires et très controversées explosera. C'est ça la grande. Et ce qui serait bien entendu le pire des scénarios.
Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il n'est de l'intérêt de personne que ce système explose. Mmh. Et donc, moi qui suis un réaliste, j'ai tendance à penser que comme il n'est de l'intérêt de personne que le système explose, tout sera fait pour faire en sorte qu'on trouve des relais pour effectivement développer davantage de croissance interne, de consommation interne, qu'on trouve des relais sur les exportations chinoises, qu'on trouve en quelque sorte des aménagements qui permettront effectivement de sauver, si je puis dire, le modèle tel qu'il existe aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous présenter ce livre dans cette émission, La Chine-Amérique en un seul mot, un couple contre nature, paru aux éditions Erol, deuxième livre du Cercle Turgot.
Merci à vous.
Merci.
Merci.